Je mets en pièces, morceaux de choix et bas morceaux. Je démembre, je morcelle, je hais le linéaire. J'épingle, je sèche, j'humidifie, je ressèche. Je n'enfante que des chimères. Annette Messager, ce soir notre invitée à l'occasion de deux expositions. L'une qui vient de commencer au LAM à Lille, comme si, et une exposition collective à main nue au Macval jusqu'en septembre prochain. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Alléluia par Leonard Cohen.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Dormez-vous la nuit, Annette ?
Plus ou moins.
Pas beaucoup ?
Pas assez, peut-être.
Parce qu'à l'intérieur de votre livre d'artiste que vous publiez ces jours-ci en accompagnement de votre nouvelle exposition au Macval, il y a cette phrase très énigmatique, « Pas dormir, deux points, errer sans ombre ».
Ben, si elle est énigmatique, laissons-la énigmatique.
Non, mais est-ce que c'est dans le noir que les idées viennent ?
Moi, ça serait plutôt 5 minutes de lucidité. Et encore, je dis 5 minutes, c'est beaucoup. À 7h du matin, où je suis, c'est pas mon réveil sonne plus tard, mais à 7h, je suis réveillée. Et alors là, plein de choses me viennent à l'esprit, enfin plein, quelques-unes, hein, et assez sensées, hein, pas des délires de la nuit, ou de folie, de rêverie, ou de cauchemar. Et après, ça s'en va. Enfin, je veux dire, après, c'est fini. Il n'y a plus de lucidité, presque.
Et vous notez ce qui vous,
non,
ce
non,
qui vous vient
que,
à l'esprit?
Non, non, parce que c'est très fort à 7h. Ça dure quelques minutes.
Quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes endormie.
Oui.
C'est votre moment.
C'est mon moment, oui.
Et pourtant, c'est pas le moment que vous choisissez pour aller dans votre atelier. C'est plus tard que vous y allez.
Ah oui, c'est plus tard. Il faut que j'aille boire un café au café. Il faut que je sorte chez moi. Il faut que je voie des gens de la ville, avant de me mettre au travail. Enfin, c'est un mot qui est un peu moche.
Travail ?
Oui. Mais parce qu'être artiste, c'est souvent être en attente. C'est peut-être là où viennent les choses, parce que c'est très facile de s'occuper à faire plein de choses et pour ne pas penser. Et en réalité, attendre que ça vienne, faut provoquer un peu. Enfin, il faut être quand même dans une indécision, une sorte de flou pour que les choses viennent à vous et regarder ce qu'il y a autour de soi, les manipuler, les toucher, les casser.
Qu'est-ce qui provoque justement les idées ?
Je sais pas.
Qu'est-ce qui les nourrit ?
Ben, quand même d'être un peu obsédé par ça, par ce que je veux faire, parce que j'aimerais faire, parce que je voudrais faire. Donc, je suis un peu obsédé par ça, oui.
C'est-à-dire par les idées que vous voulez transcrire dans votre grammaire artistique. C'est d'abord l'idée.
L'idée, une très vague idée, parce que si j'ai une idée précise de ce que je veux faire, d'abord, je n'ai plus envie de la faire, parce que c'est beaucoup mieux dans l'imaginaire que dans le réel. Et puis, ben voilà, c'est fait. Et si j'ai vraiment une idée précise et que je la réalise, ben c'est raté parce qu'il y a pas eu, ce côté laisser courir, laisser les choses évoluer en les faisant, en les regardant, en les oubliant, en les reprenant. C'est un parcours, c'est pas comme ça. J'ai une idée, oh, hein. En tous les cas, c'est pas moi, pas comme ça.
Mais en tout cas, on peut dire que chez vous, vous avez des idées obsédantes et qu'elles peuvent provoquer des séries.
Ben j'ai des séries, oui, j'ai des moments où j'essaie de faire une œuvre avec une vingtaine d'éléments, donc il faut les réaliser, donc ça prend, je sais pas, 6 mois, 1 an, et c'est une série, et puis peut-être une autre où je reviens en arrière, je reprends des choses.
Quand vous faites une série avec des utérus, par exemple, est-ce que ce qui vous importe, c'est la représentation que vous allez pouvoir décliner, à partir peut-être de clichés d'ailleurs médicaux, ou est-ce que c'est les matières que vous allez utiliser pour décliner cette idée ?
Moi, je pense que c'est très très lié, de toute manière. Les utérus, j'en ai fait
des centaines.
Des dessins. J'en ai fait un papier peint. Papier peint d'utérus. Qu'on peut voir au Macval. Et puis, j'en ai fait des petits assemblages, des petites sculptures.
Vous oubliez les cartes de France, Annette.
Oui, c'est plus ancien, mais c'est montré là, puisque ça appartient à ce musée, le LAM. Donc j'ai fait des cartes de France avec des morceaux de peluche, une très grande carte de France en l'an 2000. Et puis j'ai fait des dessins de cartes de France.
Et donc, cette obsession des utérus est-elle venue de ce qui vous est arrivé sur le plan médical, parce que vous en dites quelques...
Ah non, c'était bien avant. Ah oui, oui, bien avant. Et puis, j'ai fait parce que j'avais constaté que il y avait beaucoup de représentations de vagins ailés. Mais jamais.
C'est quoi les vagins
ailés? Non, pardon. De phallus ailés.
Ah, justement. Comme par hasard.
De phallus ailés chez les Grecs et tout ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas des vagins ailés? Faut faire des vagins ailés. Donc, j'ai fait beaucoup de dessins avec des vagins, des ailes, des sortes d'aquarelles ou de dessins avec beaucoup d'eau. Et puis, beaucoup d'utérus, point levé. Évidemment, c'était un peu contre tout ce qui se passait à l'époque en Pologne contre l'avortement. Il y a déjà un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, c'est bien pire.
Ce qui se passe aux États-Unis.
Oui.
Est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre œuvre, Annette Messager, une dimension militante ou est-ce que vous récusez ce terme ?
Ben, j'aime pas beaucoup ce terme et j'aime pas beaucoup ce terme de féminisme parce qu'aujourd'hui, c'est mis à toutes les sauces. Alors que quand j'ai commencé au début des années 70 et que je disais que j'étais féministe, on me disait « T'es féministe, mais c'est ringard, ça sert plus à rien ». Alors là, aujourd'hui, non, franchement, c'est un peu énervant parce que c'est féminisme est pas toujours très très bien employé, pas toujours pour des bonnes causes, mais je comprends qu'on en ait besoin et qu'il y ait besoin de rectifier et dans l'histoire de l'art et partout aux oublis et de gros
manques. C'est ce qui est en train de commencer à se faire un peu partout dans les musées du monde entier. Artiste femme ou artiste tout court, Annette?
Moi, je crois que les artistes on est de sexe en eux, je crois. Je crois qu'on est hermaphrodite. Je veux dire que je me sens à la fois garçon, à la fois fille, ça dépend. Et puis, j'ai plusieurs identités, je ne suis pas... Je me suis donné beaucoup d'identités, comme ça, Annette Messager collectionneuse, artiste, femme pratique, etc. C'est toujours difficile d'ailleurs parce qu'on veut cataloguer un artiste, voilà, il fait ça et on le reconnaît très bien. Tandis que moi, c'était l'inverse. Je voulais prendre des photos, faire des petits dessins, faire de la broderie, faire des collections. Donc je me suis donné différentes identités pour cette raison.
En tout cas, dans la première partie de votre œuvre, Annette Messager, vous avez travesti, vous êtes moqué justement des différentes identités assignées aux femmes. On leur donnait des travaux de couture, on ne disait d'elles qu'elles n'étaient capables que de faire des travaux manuels.
Oui, mais c'est beau la couture.
Mais justement, et je crois que vous cousez très bien, d'ailleurs, et que vous brodez très bien.
Oui, enfin...
Vous avez appris?
Ah ben à l'école, quand j'étais petite, oui, bien sûr.
Mais dans ce qu'on appelait les travaux féminins et qu'on nous enseignait effectivement à l'école.
Oui, faire des ourlets, des jours même. Eh ben, ça me sert, hein. Mais je regardais, parce que j'ai un dossier sur mon ordinateur d'éventuels titres, où je marque des titres possibles que je pourrais utiliser ou pas. Et j'en voyais un, « Femme d'intérieur », que je pense que c'est une appellation qu'on ne dit plus, mais en même temps, c'est assez beau, « Femme d'intérieur ». Quel intérieur ?
Ben, ça voulait dire que les femmes étaient assignées à leur foyer domestique et devaient s'occuper de la cuisine et des enfants et basta, et qu'elles n'avaient pas droit à l'espace extérieur.
Mais c'est assez joli, femme d'intérieur.
Vous trouvez que ça vous va bien ?
Ah non, non, pas pour moi, mais à l'intérieur, c'est très important.
Ben, vous êtes une femme d'intérieur, d'ailleurs, vous vivez à l'intérieur de votre atelier la plupart du temps.
Enfin, je ne suis pas une très bonne femme d'intérieur au sens traditionnel. Je ne sais pas faire la cuisine, le ménage n'est pas très bien fait. Mais je suis peut-être une femme d'intérieur d'une autre manière.
Je crois. Et justement, vous dites à l'intérieur de ce volume qui accompagne cette exposition à Lille que vous parlez quand vous travaillez, que votre femme de ménage, puisque vous prenez une femme de ménage puisque vous n'êtes pas très douée pour faire le ménage... Elle trouve ça assez marrant de vous entendre en train de travailler. Vous vous dites quoi ?
Au début, elle disait, mais qu'est-ce que vous me dites, Annette ? Je dis, non, non, c'est pas à vous que je parle, c'est à moi. Ah bon, vous vous parlez ? Donc maintenant, elle est habituée, elle fait plus attention. Ben, je me parle, j'essaye de m'encourager, de me dire, oh, ben oui, là, c'est pas si mal ce que tu fais. Mais par contre, là, ce que tu as essayé de faire, c'est carrément je peux te le dire, Annette, c'est raté, c'est moche, enfin, voilà, et puis je demande, j'ai beaucoup de fantômes autour de moi, je leur demande s'ils sont d'accord, s'ils m'aident. Ce sont des gentils spectres. Les autres, je les balance.
Ils vous répondent toujours, ils sont toujours là, à vos côtés.
Oui, enfin, je les fais me répondre, oui.
Donc c'est une sorte de soliloque intérieur qui accompagne la création.
Oui.
C'est une réassurance ou c'est une admonestation de vous-même?
Non, c'est simplement, oui, un accompagnement ou... je ne saurais vous dire, je ne peux pas... Si j'ai mis la radio, par exemple, je n'entends même pas, je ne l'entends pas. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Et si je mets de la musique, pareil, je ne l'écoute pas. J'écoute autre chose et je me parle et on parle ensemble.
Donc vous vous parlez à vous-même, à une des Annette Messager. Combien y en a-t-il?
Oh, je ne sais pas, ça dépend des moments.
Beaucoup, beaucoup?
Non, pas tant que ça quand même. Ça ferait fouillis. C'est déjà assez fouillis chez moi, il ne faut pas trop exagérer. Après, on ne s'en sort plus. Il faut de l'ordre dans le fouillis.
Il faut aussi des cycles de création. Et je crois, enfin, il me semble, que dans le premier cycle de création, Annette, vous avez revendiqué justement les travaux manuels. Vous avez fait l'élégie de ces travaux manuels. Vous en avez fait des œuvres d'art. Et pour vous, nous avons retrouvé un portrait du cinéaste Alain Cavalier, le portrait de la brodeuse en 1987. Écoutez.
Votre nom, s'il vous plaît?
Tatiana Dohan.
Très bien. Vous êtes restauratrice de tapisserie. Vous travaillez dans la maison Brocard. Et vous travaillez sur une tapisserie qui est là depuis 10 ans. Le travail dure depuis 10 ans. Elle, on en voit qu'un petit morceau, mais elle fait 35 mètres carrés. Et elle date, elle a été fabriquée en 1600 et quelques. On l'appelle la tapisserie de Ferrare. Et votre nom?
Tellier Muriel.
Et vous êtes brodeuse?
Oui.
Et vous rénovez en ce moment un ancien canapé, un vieux canapé, le tissu d'un vieux canapé?
Oui, du palais de Compiègne.
Et vous ne vous piquez pas trop les doigts?
Non, ah si, assez quand même. Hein? Oui.
Et vous avez fait des études?
Oui, j'ai fait un CAP de 3 ans.
3 ans. Et vos yeux?
Moi, pour l'instant, ça va, sinon...
Vous porterez un jour des lunettes?
Oui.
C'est sûr?
Oui.
Vous avez quel âge, s'il vous plaît?
23 ans.
23 ans. Et vous réparez un vieux fauteuil?
Oui.
Pour le Sénat?
Oui.
Ça sera un vieux sénateur qui s'assoira dessus. Oui.
On vient d'entendre un court extrait de ce merveilleux film d'Alain Cavalier, donc sur la brodeuse, qui était une enquête au pays des femmes qui travaillaient de leurs mains. Et comme elles viennent de le dire, ça fait aussi travailler les yeux et ça pique les doigts. J'ai l'impression que passer par ces travaux manuels et en faire des œuvres d'art, il y avait une dimension évidemment de réhabilitation chez vous, mais il y avait aussi une dimension de revendication.
Oui, ça va souvent ensemble d'ailleurs, mais j'ai fait des éloges aux couturières, parce que vraiment ce sont des invisibles, alors qu'elles travaillent énormément et elles n'ont aucune reconnaissance. J'ai une pièce à Pompidou-Metz en ce moment, dans l'exposition d'Eva Epli, qui s'appelle « Les spectres des couturières ». Donc c'est des grands... instruments de couture, ça peut être des ciseaux, c'est des mètres de ruban, etc., qui sont suspendus avec des ombres, etc. J'aime beaucoup les outils et j'aime beaucoup les montrer. Là, au LAM, il y a un hommage aux couturières avec rien que seulement les mètres des couturières qui sont dépliés d'une certaine manière. Hier, on m'a dit que ça faisait penser à une peinture de Le Sage, mais je ne sais pas, mais c'est assez symétrique, donc, et c'est très très simple parce que c'est fait avec des mètres de ruban et j'ai envie souvent qu'on respecte plus et qu'on mette plus en avant les couturières.
Alors, à l'intérieur de vos œuvres, Annette Messager, et aux lames plus particulièrement, on peut voir que il y a une dimension d'espace. Vous prenez des espaces. Il y a des espaces très grands. Et il y a des installations un peu plus petites, mais plus vous avancez, plus vous revendiquez une prise d'espace. comment se construit cet espace avant qu'il ne soit réalisé par vos doigts et avec les instruments, que ça soit un mètre ou des ciseaux, qui apparaissent d'ailleurs comme un instrument quasi obsessionnel à l'intérieur de votre œuvre. Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous imaginez, vous retranscrivez sur du papier avant de le concevoir dans l'espace?
Je l'ai fait pas pour des espaces particuliers, parce qu'en général...
Ça vient comme ça.
Ça vient comme ça,
comme
je
une
le fais
idée.
Chez moi, et puis ça voyage dans différents endroits. Donc évidemment, à chaque endroit, il faut... parce qu'une exposition, c'est une aventure, et il y a un cheminement dans le temps, dans l'espace, et même dans la sonorité. Donc, c'est très très important de bien sentir les espaces et d'essayer le plus possible de s'approprier les espaces. Au LAM, c'est des très belles salles, très white cube. Et puis, ils m'ont donné en plus une sorte d'engorgement avec un escalier. C'est moche par rapport aux autres espaces, mais en même temps, c'est celui-là que les gens préfèrent, parce que ça devient un peu un cabinet de curiosité. J'ai mis un papier peint d'utérus, j'ai accroché beaucoup, beaucoup de choses, on sait plus trop où regarder, on monte à l'escalier, on aperçoit cette pièce dessus-dessous d'un grand tissu rouge de cette petite fenêtre lucarne. Donc finalement, les gens aiment bien être là, parce que c'est pas vraiment les salles nobles du musée du LAM.
Pour qui faites-vous des expositions? Est-ce que c'est pour nous, les spectatrices et les spectateurs, ou c'est pour répondre à des commandes prestigieuses de la part d'institutions du monde entier? Je rappelle que vous venez d'avoir une exposition en Israël, que vous avez
c'est
été
toujours
en ce moment en Israël, oui. Que vous êtes exposée dans le monde entier. Mais d'ailleurs, pour cette exposition du LAM, vous avez dessiné les espaces sur une petite...
C'est le plan, oui.
Le plan, comme si effectivement il fallait d'abord le plan pour pouvoir ensuite adapter ou adopter l'espace pour en faire un imaginaire qu'on va pouvoir traverser.
J'ai fait beaucoup de plans chez moi. Mon père était architecte. Et vous savez, à l'époque, c'était des plans sur du papier calque avec une équerre, voilà, une grande règle. C'était pas par ordinateur comme aujourd'hui. Et donc, je lui piquais ces outils. Donc, il était furieux après moi parce qu'il disait oui, parce qu'il avait son cabinet là, à côté de la maison. Tu peux prendre quelque chose, mais tu dois le remettre. C'est pour mon travail. Et donc, oui, sur du calque, je fais différents plans, je me triture les cheveux, je les retourne dans tous les sens. Oui, c'est un moment important. Et en même temps, comme ça, c'est miniature, donc on domine la situation. Après, sur place, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est quand même important d'y aller, de se sentir bien au moment où on installe. C'est que à chaque fois, on change des choses, parce que le vrai, c'est encore autre chose, c'est encore différent.
On a l'impression qu'à chaque fois...
Mais je ne travaille pas sur commande, comme vous dites.
Non, mais vous recevez des propositions.
Oui, mais j'ai des travaux en cours, je les fais.
Indépendamment des commandes. Enfin, il n'y a pas de commandes chez vous. C'est plutôt ceux qui vous demandent qui vont s'adapter à ce que vous êtes en train de faire.
Ben, ils me demandent parce qu'ils ont vu ce que j'avais fait, en principe. En principe.
Bah vous avez été reconnu dès le début. Il n'y a pas tellement eu d'années de galère.
C'était en France le plus dur. C'est en Allemagne j'ai eu les premières reconnaissances. Et tout de suite, Suzanne Paget, qui était au musée de la ville, m'a demandé d'exposer. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 expositions chez elle, personnelles. Non, le musée de la ville était très très important à ce moment-là. Pour ma formation, j'ai vu énormément d'expositions. Et puis, en Belgique, en Allemagne, plus que je me sentais plus proche de ces artistes-là qu'aux États-Unis, que des artistes américains qui étaient très conceptuels, minimalistes. Tandis que Marcel Brotters, par exemple, c'est un artiste à la fois un poète. Et je le connaissais, je connaissais ces gens, Boyce, Robert Filliou. des artistes que j'aime beaucoup, qui sont au LAM d'ailleurs, Figlio a une grande part au musée du LAM.
Avez-vous des maîtres ou des maîtresses? Des personnes que vous admirez et qui vous nourrissent?
Oh oui, ça change parfois, les noms changent, mais oui, j'en ai bien sûr.
Lesquels? Vous voulez pas dire, c'est secret. Vous êtes la conteuse et
non,
la fabricatrice de chimères et de mystères.
En ce moment, c'est Zurbaran. J'aime beaucoup Zurbaran. Mais une artiste qui est décédée malheureusement très jeune, Eva Hesse, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et qu'on ne l'oublie pas, elle est très, très célèbre. Mais comme elle est morte très jeune et que ses travaux sont très fragiles, elle est peu montrée. Et puis, je viens de voir une exposition de Douglas Gordon à l'Institut Giacometti, qui est très bien, c'est un très bon artiste.
Donc, vous vous nourrissez en allant voir les travaux des autres et en allant dans les musées. Vous en avez besoin?
J'y vais peu. Je prends pas beaucoup de temps pour y aller, mais j'y vais pas beaucoup dans les galeries, non.
En tout cas, vous avez pris d'assaut il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a 2 ans, merveilleusement, justement l'Institut Giacometti. Je voudrais vous faire écouter la voix d'un homme qui, je pense, vous inspire. En tout cas, il y a eu une sorte de gaieté folle et de création fantasque à l'intérieur de cet Institut Giacometti quand vous l'avez pris, Annette Messager. Nous écoutons la voix d'Alberto Giacometti à propos de la sculpture. C'est une archive INA du 5 octobre 1980 et c'était au micro de Jean-Marie Drault.
Parce qu'enfin, j'ai commencé à faire de la sculpture parce que c'était exactement le domaine où j'y comprenais le moins. Alors, en fait, il fallait passer outre et faire autre chose qui me convenait mieux. Je ne pouvais pas supporter ce domaine qui m'échappait complètement. Donc, il fallait faire de la sculpture. Et au fond, pour s'en débarrasser, j'espérais d'en comprendre assez vite, assez, pour faire autre chose. En fait, je n'ai encore rien compris. Donc, je suis obligé d'insister. Enfin, ce n'est pas... Il n'y a pas de choix.
Donc, pour vous, c'est jamais le sentiment d'une réussite?
Il ne peut pas y avoir une réussite parce que réellement, ce que ça peut être aujourd'hui la sculpture et à quoi elle peut correspondre, je n'en sais encore rien. Enfin, c'était jusqu'à maintenant des essais ratés, parfaitement ratés. Quoi, des recherches de... Ça n'était pas faire de la sculpture, c'était tâter le terrain pour trouver où on pourrait bien en faire.
Nous venons d'entendre Alberto Giacometti, ça vous fait sourire, c'est vrai. Vous pensez que c'est vrai ce qu'il dit Alberto Giacometti, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait, il faut y aller pour le découvrir?
Oui, je pense que ce que je disais tout à l'heure, si on sait vraiment, eh ben finalement ça n'a pas d'intérêt de le faire. Mais j'ai bien cette archive parce que ben, les artistes sont toujours un peu des menteurs. C'est-à-dire que je suis sûre qu'il est tout à fait sincère dans ses mensonges. Et c'est Picasso qui a dit les mauvais artistes copient, les bons artistes volent. Mais Giacometti, c'est vrai, a trituré tellement la terre, l'a déformé. Et en fait, c'était l'espace autour de ces sculptures qui l'intéressait. Il disait qu'il allait beaucoup au cinéma à cause de ça, parce que quand il voyait, et que c'était ça qui lui avait donné l'idée des petites choses très rétrécies, très rabougries. Au cinéma, il y a de l'espace autour des acteurs et que c'est ça qu'il voulait faire. En fait, c'était le vide autour qui l'intéressait.
Et puis, vous appelez Annette, comme Annette Giacometti.
Et puis, bien
c'est pas
sûr.
Mal.
Et sa mère s'appelait Annetta aussi.
Donc, que des Annettes.
Voilà.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Annette Messager, Purcell, aux Solitudes.
Thank you. plus tard, beaucoup plus tard, tu t'es réveillé plusieurs fois peut-être, rassoupi plusieurs fois, tu t'es tourné du côté droit, du côté gauche, tu t'es mis sur le dos, sur le ventre, peut-être as-tu même allumé la lumière, peut-être as-tu fumé une cigarette. Plus tard, beaucoup plus tard, le sommeil devient une cible, ou plutôt non, au contraire, tu deviens la cible du sommeil. C'est un foyer irradiant, intermittent. Devant toi, ou plus précisément devant tes yeux, parfois plutôt à gauche, parfois plutôt à droite, jamais au centre, une myriade de petits points blancs s'organise, dessinant, à la longue, quelque chose de félin, une tête de panthère vue de profil, qui s'avance, qui grandit en montrant deux crocs acérés, puis disparaît, laissant place à un point lumineux qui grossit, devient losange, étoile, et fonce sur toi très vite, t'évitant au dernier moment en passant à ta droite. Le phénomène se reproduit plusieurs fois, régulièrement. Rien d'abord, puis des points à peine lumineux, une tête de panthère qui s'esquisse, puis se précise, grandit en rugissant, découvrant deux crocs acérés, puis un point scintillant, presque éclatant, qui s'enfle, losange, étoile, puis boule de lumière qui vient sur toi, t'évite de justesse, passant si près de toi que tu as presque cru la toucher, la sentir, l'entendre, puis rien à nouveau, longtemps, des points blancs, la tête de la panthère, l'étoile qui grandit et te frôle. Puis rien, longtemps. Ou bien, plus tard, parfois, quelque part, quelque chose comme un astre blanc qui explose.
Nous venons d'entendre successivement Henri Purcell et puis vous avez reconnu sans doute la voix de Georges Perec qui lisait un extrait de son roman « Un homme qui dort ». Et quand on voit votre travail, Annette, on se dit que finalement, peut-être les idées naissent la nuit. On a commencé cette émission avec la nuit. Et puis ensuite, dans le cerveau s'organisent des espèces d'assemblages, peut-être de lumière, comme vient de décrire Georges Perec. Et puis après, il y a la confrontation avec l'espace. Et en même temps, dans ce livre qui accompagne votre exposition aux lames, il y a un aspect très méditatif de la jeunesse de votre travail. Notamment, vous décrivez admirablement comment vous observez, sans rien faire, le dépôt de l'eau, par exemple, sur un dessin. Et vous avez besoin d'attendre.
Oui, il faut attendre, mais pas trop, parce que ça sèche vite. Mais c'est vrai que c'est très très beau, l'eau qui se dissémine sur le papier. C'est un peu comme les escargots, vous savez, avec les traces qui font, qui sont très belles aussi, totalement incompréhensibles et inattendues. Et oui, je regarde ces traces et je mets la couleur dans comme ça, dans ce méandre d'eau. Et j'attends, et puis très vite, il faut agir. Il faut quand même pas attendre tout le temps.
Alors, ça veut dire quoi, agir? Parce que tout à l'heure, Giacometti disait, il faut pas trop faire, faut pas trop...
Il a beaucoup fait, quand même, Giacometti. Il a beaucoup manipulé avec ses mains, justement, trituré de la terre, tout le temps, tout le temps. Il faut faire vite. Enfin, les dessins, ça doit être fait, pour moi, très, très rapidement. Ce sont vraiment des poèmes, des haïkus, pour moi, et il n'y a pas de repentance possible. C'est pas comme une peinture où c'est un peu lourd, c'est pas de la poésie pour moi, la peinture, mais le dessin, vraiment, oui.
Comment naissent les idées, par exemple, comme si? C'est le titre de l'exposition.
Ah, comme si, je sais précisément, parce que je lisais un livre de Gwenaëlle Aubry, Personne, qui s'appelle Personne. Et à un moment, on dit qu'en psychiatrie, il y a la maladie du comme-si. C'est-à-dire que les malades font comme si tout allait bien, comme s'ils étaient en bonne santé, comme si... Et je crois qu'on fait tous comme si on était jeunes, beaux, riches, etc. Comme si on vit grâce à des comme-si. Sinon, on serait rattrapé très vite par la brièveté de la vie. Donc, j'avais un titre pour l'exposition, mais tout de suite, j'ai dit à Sébastien Delot, le directeur, je veux changer le titre et je l'appelais comme si.
Et comme si, on fait comme si, un artiste peut-il faire comme si, il était artiste?
Ben, je crois qu'on fait tous comme si.
Vous voulez dire que même les artistes font comme si, nous on a l'impression, quand on vient voir votre travail, que justement, vous les artistes, et particulièrement votre travail Annette Messager, c'est la possibilité de nous délivrer des accès à une sorte de vérité, et que vous n'avez pas droit au comme si, puisque vous êtes confronté à votre imaginaire. Vous pouvez pas tellement tricher.
D'abord, vous parlez de vérité, mais moi je ne vois pas où est la vérité. Je pense qu'il n'y a aucune vérité. Je pense qu'il y a simplement peut-être des questions et qu'il n'y a pas de réponse à quoi que ce soit. Et donc, peut-être qu'un artiste pose des questions et qu'on voit différemment certaines choses après avoir vu une exposition de tel artiste. On ne le voit plus de la même manière. Mais je pense qu'il n'y a aucune réponse. Heureusement d'ailleurs, s'il y avait une réponse, après on s'arrête.
Chaque salle, chez vous, chaque espace, est une possibilité d'entrer dans un univers particulier. Et dans plusieurs de ces salles, en ce moment-là, mais ça fait quand même pas mal de temps, parce que je me souviens d'une exposition au Centre Pompidou il y a quelques années, je me souviens d'une grande exposition dans le Palais des Papes à Avignon, etc. Il y a toujours, je ne sais pas si on peut les appeler des grottes, en tout cas des possibilités de rentrer à l'intérieur de continents noirs, noirs ou rouges, oui, avec des filets noirs ou des voiles rouges. Que se passe-t-il ? Est-ce que c'est s'introduire dans une grotte pour essayer de nous mettre dans une forme de noir pour vous ? Comment s'élabore cette grammaire obsessionnelle à l'intérieur de votre univers, Annette Messager ?
C'est vrai qu'au Lam, il y a un grand tissu rouge qui bouge, qui est violent par moments.
Ça peut être un utérus aussi, après
oui,
tout.
Oui, moi j'y vois... Oui, ou un accouchement, ou une mère de sang... Mais je pense qu'à l'heure actuelle, ça serait plus... la mer est quand même de plus en plus envahie de cadavres. On trouve sur la plage des chaussures. On se dit, cette chaussure, elle vient de... Voilà, de quelqu'un. Et donc, ce tissu rouge est violent, il est animé, il se gonfle, il s'assoupit. Et puis, il y a des lumières où tout d'un coup, il y a des objets vaguement identifiables. Il y a un grand bras en sky. Il y a des détritus, un peu des sacs plastiques colorés qui deviennent même jolis avec ces lumières et qui s'éteignent par moments. C'est dans le noir complet, enfin dans le rouge plutôt. Et donc, il y a un son aussi, parce que c'est l'an dernier, j'ai fait comme. J'ai fait une sorte de, il y a une salle comme ça où il y a une répétition, du titre qui est susurré, un autre endroit, il y a un écho de comme si, et, le son m'intéresse aussi beaucoup. C'est pas facile parce que les gardiens, ils n'aiment pas beaucoup entendre toute la journée, on les comprend, une phrase répétée ou une chose. Donc souvent, ils coupent, voilà, ils baissent beaucoup. Mais oui, ces derniers temps, je pensais à faire des choses sonores peut-être.
Mais je vous propose un extrait sonore d'un film que vous connaissez bien et qui date de 1940.
Prouve-moi que tu es brave, toujours franc, loyal et obéissant. Et un jour, tu pourras devenir un vrai petit garçon. Éveille-toi, Pinocchio. Éveille-toi. Papa ! Pourquoi est-ce que tu pleures ?
Parce que tu es mort, Pinocchio.
Non, je suis pas mort.
Si, tu es mort. Allons, recouche-toi.
Mais papa, je suis bien en vie. Et même, je suis vrai. Je suis un vrai petit garçon.
Et tu es vivant. Et tu es en chair et en os.
Oui, youpi.
C'est un miracle qu'il faut célébrer tout de suite. Maestro, en avant la musique.
Bon, ça c'est la, le film de Walt Disney, Pinocchio, qui date de 1940. Mais si nous avons choisi cet extrait pour vous, Annette Messager, c'est parce que on se souvient toutes et tous, pour celles et ceux qui ont eu la chance d'aller à la Biennale de Venise quand vous représentiez la France il y a quelques années, vous aviez dédié le pavillon français à Pinocchio. Pinocchio, c'est l'incréé qui devient une créature et qui va essayer aussi de se créer comme sujet autonome. Et là aussi, d'ailleurs, il y avait une mare de sang, si je me souviens
oui,
bien.
Oui, c'était presque, oui, effectivement, ça sortait d'une petite salle en plus, comme un accouchement. Mais parce que Pinocchio va chercher son père qui a été avalé par une baleine. Et il se fait avaler par la baleine. Et il dit, mais tu peux pas rester là. Mais le père dit, mais il mange tout. Je n'ai jamais été aussi heureux. Cette baleine a tous les poissons, les livres, j'ai une bibliothèque, j'ai toutes ces choses que j'ai jamais pu m'acheter. Je suis très bien ici. Donc il lui dit, non, tu peux pas rester. Et finalement, et c'est là qu'il devient humain parce que il réussit à le faire sortir. Mais Pinocchio est intéressant, pas du tout dans ce film-là, parce qu'il est un mauvais garçon. Il va pas à l'école, il ment tout le temps. Mais pour un artiste, c'est un petit pantin qui devient humain. C'est une chose miraculeuse, fantastique.
Mais on peut dire que les pantins sont légion à l'intérieur de votre travail, Annette Messager. Il y a une armée de pantins qui sont accrochés soit à des filets noirs, soit à d'autres types de performances. Il y a des pantins, il y a des corps démembrés.
J'appelle souvent les réplicants.
Pourquoi les réplicants? Je connais les suppliantes, mais les réplicants
Parce que j'avais vu un film et où il était question de réplicants et on n'arrivait pas à voir les vrais défauts. C'est Blade Runner, je ne sais plus. Les réplicants, et ça m'avait beaucoup touché, ce film. Et donc, toutes ces choses en tissu, plus ou moins mal faites, volontairement d'ailleurs, où on voit les organes, il y a une pièce où l'âme qui s'appelle Daily, où on est suspendu après des choses très importantes de notre vie, qui ne sont rien, mais un téléphone, des clés, et si on perd ça, on se sent vraiment dépouillé de tout et très malheureux. Mais souvent, ils sont transparents, on voit des organes ou des artères à l'intérieur. Ben, c'est nous, sauf que Pinocchio, lui, il a un nez qui s'allonge, hein, il est le seul.
Nous sommes des pantins, mais nous manipulons, surtout vous, les artistes. Nous ne sommes que des pantins, nous, vos spectateurs.
On est manipulés et on manipule. L'humain est comme ça.
Et les corps sont toujours fragmentés, dissociés
Assez fragmentés, oui. J'étais beaucoup au cinéma dans ma jeunesse. Et c'est là où j'ai découvert les gros plans de cinéma. Hitchcock, les yeux comme ça, les baisers de cinéma. Et ça m'avait beaucoup frappé. J'ai fait des pièces, mes vœux, avec des photos de mes amis et des fragments de corps assemblés. On ne sait plus si c'est garçon ou fille, tout mélangé et multiplié.
Dark, Annette, noir.
Noir et blanc, oui.
Noir et blanc.
Ces photos, vous voulez parler?
Non,
ou moi?
Vous? Votre travail?
Oui, il y en a beaucoup. Mais peut-être parce que je ne sais pas manipuler la couleur. On fait ce qu'on...
Non, mais il y avait beaucoup de cœurs à un moment dans des cycles de travaux. Il y en a moins.
Des cœurs?
Des cœurs, il y en a moins. Il y en a sur les cartes de France, puisque vous avez redessiné des cartes de France en les remplissant. C'est magnifique ce travail qui est présenté d'ailleurs en ce moment au LAM. Il y avait des cartes avec des cœurs. Là, il y a beaucoup de cartes avec des utérus. Et il y a ce petit haïku, puisque vous aimez les haïkus, dans l'accompagnement de votre exposition, où vous dites « Bénin malin, Bénin malin, Bénin malin », ce qui est manifestement une allusion à quelque chose qui vous est arrivé, qui nous arrive, hélas, assez souvent, nous les femmes, c'est tomber du côté du Bénin et pas du malin.
Ben oui, c'est une expression que m'a dit le médecin, qui m'a dit dans 4 jours, on pourra vous dire si c'est bénin ou malin ce que vous avez. J'ai trouvé que c'était très beau cette expression. J'avais tout de suite fait des dessins, Mais à ce moment-là, beaucoup de choses changent dans la vie, parce qu'on sait qu'on est passé dans un autre cycle, qu'on est vulnérable, on nous le répète assez depuis le virus, qu'on est vulnérable, qu'on est à risque, et donc je ne m'étais pas rendu compte de ça. Mais je dis toujours que j'ai un bras d'enfant quand je dessine, et puis un bras de vieille dame en même temps. J'ai les deux. Il faut faire avec ça.
Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Que vous est-il arrivé à 7h du matin et avez-vous travaillé aujourd'hui?
Eh bien, à 7h du matin, il ne m'est pas arrivé grand-chose aujourd'hui. Je m'étais couchée un peu tard et j'étais réveillée, mais c'était un peu flou tout ça, un peu confus. Et ben, j'ai répondu à des mails, des choses, ou des propositions, ou des trucs en retard. Voilà, j'étais voir mon courrier, j'ai regardé d'un livre qu'on m'avait envoyé, etc.
Et les chimères, alors?
Eh bien, les chimères, elles sont toujours là. Oui, toute ta vie.
Ben, merci beaucoup, Annette Messager. Je rappelle qu'il y a deux expositions, il y en a peut-être même trois, d'ailleurs.
Ben, il y a au Metz, Pompidou-Metz, dans l'exposition d'Eva et Pli.
Donc, trois expositions, comme si au LAM, ça c'est jusqu'au 21 août 2022, et c'est à Lille. Exposition collective à main nue, au Macval jusqu'en septembre, et puis au Centre Pompidou-Metz. Merci infiniment, notre fabricante de mystères et de chimères.
Merci à vous.
Tout ce que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes s'embrouillent, les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous.
C'est avec Au clou et pomme, je ne suis pas vraiment là. Merci encore Annette Messager, merci à Mathias. Mathias Alléon qui est à la régie technique ce soir. Merci à Marie Clément, Élodie Royer, Céline Villegas. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, réalise cette émission. Dans 5 minutes, vous retrouverez les émissions de la campagne officielle pour les élections législatives. Et tout de suite après, ce sera le Very Good Trip de Mishka Assayas.